Radio Kapi. Le journal vous est présenté par Patience Ngalula Mbombo.
La détérioration continue de la situation humanitaire dans plusieurs localités de la province du Nord qui vous préoccupe les coordonnateurs humanitaires en République démocratique du Congo. Bruno Lemarquis plaide pour plus de pression sur les parties au conflit pour que cessent les hostilités. Vous allez les suivre dans quelques instants. Plus de 65 000 enfants ne sont pas vaccinés ou le sont insuffisamment dans la province de la Tchopo. Selon les programmes élargis de vaccination de cette province, l'insécurité et les catastrophes naturelles constituent les causes majeures de la sous-vaccination des enfants dans la Tchopo. Plus de détails dans ce journal. Notre invité est Arsène Mouaka. Il est député national élu de la ville de Beni au Nord Kivu. En vacances parlementaires dans la région, il s'exprime sur la recrudescence des attaques de rebelles des EDF depuis quelques semaines dans la région. Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Les coordonnateurs humanitaires en République démocratique du Congo s'est dit inquiet de la détérioration de la situation dans plusieurs localités de la province du Nord Kivu suite aux derniers développements sur le terrain. Il l'a dit ce lundi à Goma au sortir d'une séance de travail avec les gouverneurs du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Bruno Lemarquis plaide pour plus de pression sur les parties au conflit pour que cessent les combats. On l'écoute dans cet extrait choisi par Chris Mukand.
La situation humanitaire, hélas, continue à se dégrader. L'année ne commence pas très bien. Du fait des derniers combats, notamment dans le territoire de Masisi, il y a de nouvelles vagues de déplacés. Il y a pas mal de combats à Sake, au nord de Minova, dans plusieurs zones. Donc, pour les humanitaires, ça veut toujours dire plus de personnes qui vont avoir besoin d'assistance. Donc vraiment, les besoins sont énormes. Il y a tellement de déplacés, il y a tellement de besoins partout, c'est difficile de prioriser. Bien que ce soit une crise qui fasse pas la une au niveau des médias à l'international, il y a quand même une grande attention des bailleurs de fonds pour cette crise, puisque c'est le plus gros montant jamais mobilisé avec plus de 1,3 milliard de dollars. Mais les besoins sont tellement immenses que même cette grande somme ne suffit pas à répondre à tous les besoins. C'est vraiment une situation très très difficile pour les personnes affectées, notamment pour les personnes déplacées. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les personnes sont déplacées de multiples fois. On connaît tous la solution à cette situation. Il faut le retour à la paix. Il faut que tous les efforts diplomatiques portent leurs fruits. Il faut que toutes les pressions possibles soient faites pour revenir à la paix auprès des belligérants, donc pour revenir à la paix, pour que les gens puissent rentrer chez eux.
Entre-temps, les commandants 3e zone de défense, le lieutenant-général Masunzu Pacifique, est en mission d'inspection et de commandement au Sud Kivu. C'est sa première visite depuis sa nomination par le président de la République à la tête de cette zone de défense qui englobe cette province du pays. Le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavulisa, revient sur l'importance de cette mission en ce moment où le M23 tente de franchir les limites du Sud Kivu à partir du territoire des Kalehe, frontalier avec celui des Masisi au Nord Kivu. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Il a bien voulu commencer sa tournée d'inspection et de commandement par la ville de Bukavu. Il est dans sa zone de responsabilité. La 3e zone de défense n'est pas seulement le Sud Kivu, la ville de Bukavu, non. La 3e zone de défense prend 7 provinces administratives. Ça part de la Tchopo jusque dans le Mali. Et le commandant 3e zone de défense a le contrôle de toute sa zone de responsabilité. Dans le territoire de Calais, la situation est relativement calme. Mais ce qu'il faut noter est qu'il y a deux agresseurs qui continuent à envahir l'espace de notre territoire national. Et c'est pour cela que notre population doit collaborer étroitement avec le service de sécurité et de défense. Toutes les batteries sont déjà mises en marche pour que la paix et l'autorité de l'État soient restaurées dans toutes les provinces. La 3e zone de défense, le M23, se trouve bel et bien sur le sol congolais. Et c'est pour cette raison que nous parlons de l'agression rwandaise.
Être un jeune garçon semble devenir une infraction dans certaines parties du district de la Tchangou, situé dans l'est de Kinshasa. C'est ce qu'estiment certains habitants de ce coin de la capitale congolaise. Ils dénoncent les tracasseries policières dont sont victimes les jeunes qui y résident. C'est le cas du quartier Nsanga à Kimbanseke. C'est un reportage de Grâce Amzati.
Les jeunes hommes, dont l'âge varie entre 18 et 25 ans, sont les principales cibles de ces agents de sécurité. D'après des témoignages recueillis auprès de certains habitants, ces arrestations se font généralement le soir. La libération des personnes arrêtées s'est fait moyennant des sommes allant de 50 à 100 000 francs congolais explique une mère.
Nous vivons dans notre propre pays, le Congo, mais nos enfants ne sont pas à l'aise. Ils ne peuvent même plus circuler. Les policiers les arrêtent même devant la parcelle sans aucune raison valable. Où allons-nous? L'État doit intervenir pour mettre fin à cette casserie. Nos enfants ne sont pas à l'aise. Les policiers n'arrêtent que les innocents.
Contacté, le bourgmestre de la commune de Kimbanseke dit ne pas soutenir ces pratiques, mais il dit appuyer la police dans son action de lutte contre le banditisme urbain. Jean Singanga explique.
Je suis contre cette pratique, bien sûr, mais la police n'a pas le choix. Ils ne maîtrisent pas le figuier des inciviques. C'est alors qu'ils doivent procéder à des arrestations comme ça. Quand la police arrête, qui que ce soit, pour des raisons d'enquête, ils doivent apprécier. C'est là où nous condamnons ces actes.
À en croire des habitants, une cinquantaine de jeunes d'Insanga ont déjà été victimes de ces tracasseries cette année.
Je le disais en titre, plus de 66 000 enfants ne sont pas vaccinés ou le sont insuffisamment. Sans un autre, n'ont pas achevé leur calendrier vaccinal. Ces révélations émanent du coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations dans la province de la Tchopo. Dans un entretien avec Radio Kapi, le docteur Stéphane Itekama évoque plusieurs causes à la base de cet état de choses. Les points avec Jacques Mukonkole.
L'insécurité, les inondations ainsi que l'intensification des activités minières dans certaines zones constituent les causes majeures de la sous-vaccination des enfants d'Ala Tchopo. Par rapport à l'insécurité, les territoires d'Opala, d'Ubundu, la commune de Lubunga et la zone de santé de Yakusu en sont les plus affectés à cause du conflit sanglant Bodelengola. À ceci, il faut ajouter la région d'Opiengé en proie à des accrochages récurrents entre des groupes armés, la destruction de plusieurs structures sanitaires et les déplacements des populations n'ont pas facilité la réalisation des activités vaccinales, déclare le coordonnateur du programme PEV dans la Tchopo. Le docteur Stéphane Itekama évoque également l'inaccessibilité de certaines zones à cause de la crue des grands cours d'eau en aval du fleuve. Il évoque les conséquences de la sous-vaccination des enfants.
Nous nous sommes trouvés devant l'émergence de plusieurs maladies évitables par la vaccination. Pour cette année, la province a pu notifier presque 6 cas confirmés de polio dans nos différents territoires, y compris même dans la ville de Kisangani. Il y a eu des épidémies de rougeole.
Bien que dépendant du soutien financier et matériel des partenaires techniques et financiers du gouvernement, le coordonnateur PEV demande aux autorités politico-administratives de s'impliquer davantage dans les activités sanitaires afin d'améliorer la couverture vaccinale. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Kasaï, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral, FMMDI, dénonce la montée des cas de viols sur mineurs depuis le début de ce mois de janvier. D'après la directrice pays de cette structure, dans l'espace d'une semaine, 3 filles ont été violées, notamment à Kananga, Demba et Mweka. Nathalie Kambala exige des enquêtes pour retrouver tous les auteurs de ces actes, soulignant que certains ont déjà été interpellés et ils doivent être sanctionnés, soutient-elle. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Ces petites innocentes ont été sauvagement abusées, dont 3 présumés auteurs sont déjà aux arrêts, et nous demandons aux autorités compétentes d'infliger des sanctions lourdes contre ces personnes délinquantes pour leurs crimes commis. Pour le pasteur en fuite en ce moment, nous lançons un appel vibrant aux services spécialisés de diligenter des enquêtes afin de retrouver et condamner ces présumés auteurs en fuite. Et à la population, nous demandons la vigilance et la collaboration pour retrouver ces coupables. C'est vraiment triste et inadmissible de continuer à vivre ce genre de violence, surtout pour cette catégorie des enfants. La situation devient de plus en plus alarmante et insupportable. Et j'alerte les autorités politico-administratives, les autorités judiciaires, les autorités policières et militaires de protéger la population. Nous nous sentons en insécurité depuis un moment de voir des femmes, des filles, des enfants, des garçons violentés à tout bout de champ.
Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où les nombreuses stations-service de Lubumbashi sont fermées. Du coup, les revendeurs, communément appelés Kadhafi, s'adonnent à la spéculation. Un litre d'essence se vend jusqu'à 10 000 francs congolais. Conséquence, les prix de la course en taxi ou taxi-bus sont aussi revus à la hausse. Les stations vendent plus les mazouts que l'essence. Et les stations vendent au fur et à mesure qu'elles sont approvisionnées. Entre-temps, d'après les pétroliers, cette situation est notamment causée par le fait que les transporteurs préfèrent livrer les carburants en Zambie qu'en RDC à cause des multiples tracasseries auxquelles ils sont exposés. Jean Gandou.
Le mouvement qui a timidement commencé le week-end a pris de l'ampleur ce lundi. Les quelques stations qui sont opérationnelles sont prises d'assaut par de nombreux automobilistes et motocyclistes auxquels s'ajoutent les porteurs des bidons. D'après les pétroliers, cette situation est causée notamment par le fait que les produits pétroliers qui passent par le port de Durban en Afrique du Sud font un long détour pour arriver à Lubumbashi. Le gouvernement zimbabwéen a obligé aux transporteurs des marchandises qui sont en transit de payer les droits des douanes et ce n'est qu'à la sortie qu'ils se font rembourser après présentation de preuves de paiement. Ils estiment qu'ils perdent beaucoup de temps. Ainsi, ils ont pris l'option de transiter par le Mozambique. Une autre raison, c'est qu'ils observent une longue file de véhicules transportant des marchandises, dont le pétrole, du côté zambien à partir de la frontière avec la RDC sur des dizaines de kilomètres, à cause notamment de la lenteur administrative à la douane de Kasumbalesa et à celle de Mokambo. Ce qui fait que la plupart des pétroliers ne veulent plus faire les trajets de la RDC. Ils estiment que cela leur fait perdre le temps. En outre, une fois sur le sol congolais, ils sont l'objet des tracasseries et à cela s'ajoutent les frais des péages à plusieurs endroits. Conséquence, ils préfèrent désormais fournir le carburant en Zambie qu'en RDC. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
À Kinshasa, revenons sur les calvaires des Kinois ce lundi. Les transporteurs privés ont décidé de ne pas travailler. Ils dénoncent encore une fois les prix des courses proposées dans la nouvelle grille de la ville. Ils estiment qu'elle est non réaliste par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent sur terrain, notamment le nombreux bouchons qui rallongent la durée des trajets. Conséquence, plusieurs personnes ont fait le pied, perturbant ainsi leur programme. Dans ces reportages, Blaise Chindani, Plotin Yam Benga, Sulamit Ngoma et Nancy Tambo reviennent sur la situation qui a prévalu hier.
De nombreux Kinois ne disposant pas de moyens de transport personnel ont peiné ce lundi pour se déplacer. La place du Tambo Magasin, par exemple, est bondée de monde jusqu'à 7 heures. Sur Colonel Monjiba, des files d'hommes et des femmes marchent à pied. D'autres découragés envisagent de retourner à la maison au cas de cet étudiant.
Il n'y a pas moyen d'aller. Peut-être je vais rentrer ou ça prendre d'autres transports vers Victoire.
Cette fonctionnaire de l'État supplie les autorités de trouver rapidement une solution.
Même nous, la population, nous sommes fatigués avec leur débordement de prix. S'il y a une attente, en tout cas, que le ministre fasse vite, sinon nous autres, nous sommes des fonctionnaires, on est obligé d'être au bureau à 7h, mais là jusqu'à 9h, on est sur la rue. On ne sait pas s'il faut avancer ou soit il ne faut pas avancer. Ouais. Bon, présentement, puisque je dois arriver au bureau, je suis obligé de prendre la moto parce qu'il n'y a pas de bus. Avec mon maigre salaire qui finit seulement aujourd'hui même.
L'État congolais doit user de son pouvoir pour le respect des tarifs officiels, insiste ce monsieur à l'arrêt de bus.
Le gouvernement doit s'imposer, ne doit pas supporter les caprices des Congolais. Nous sommes trop capricieux, nous les Congolais. Nous demandons des fois d'autres choses que nous-mêmes nous sommes incapables de les faire. Donc c'est mieux qu'on s'impose. En s'imposant, vous allez voir qu'ils vont respecter.
Hier dimanche, le gouverneur de la ville avait mis en garde tous ceux qui tenteraient de perturber la circulation. Cela n'a pas produit d'effet escompté sur terrain.
Dans la province du Maniema, les prix des biens de première nécessité, surtout des denrées alimentaires, connaissent une hausse vertigineuse dans la commune rurale de Kalima. C'est à plus de 100 km de Kindu, dans le territoire de Pangui. Les bourgmestres de cette municipalité qui livrent cette information citent par exemple l'huile des palmes qui passe du simple au double, voire même au triple. Kiko Biafata Kifilemon, joint au téléphone, l'explique dans ses propos sélectionnés par Florence Kizalunga.
C'est une situation très alarmante pour le moment. Une bouteille d'huile coûte de 4 000 à 5 000 francs la bouteille. Les gens posent la question aux vendeuses et vendeurs d'huile. Ils disent que pendant cette période pluvieuse, l'huile vient soit des territoires de Kailo, soit ça vient dans le groupement Zili. Alors il y a aussi les bidons d'huile qui viennent du Sud Kivu. En tout cas, c'est pourquoi les gens disent qu'il faut seulement supporter les prix. Mais ça va changer. Je leur avais demandé peu d'atténuer les prix. Maintenant, les bénéfices ne doivent pas être vraiment débordants. Et bien que la situation va s'améliorer. Pour les cas aussi de farine, le manioc fumé sont achetés sur la route Kindu. Certaines femmes se rendent jusqu'à Tétois de Kailo. Alors, ils disent aussi, même situation que il y a la pluie, les transports aussi, les motards haussent aussi les prix. C'est pourquoi il faut chercher un bénéfice. Nous avons demandé aux vendeuses d'atténuer un peu les prix pour chercher à répondre, en tout cas, à la préoccupation des différentes familles qui consomment cette nourriture, c'est très important.
Contentieux des résultats des législatives nationales, la Cour constitutionnelle confirme les résultats des élections législatives des circonscriptions électorales des Yakoma et Massimanimba telles que publiées par la CENI. Elle a rendu son arrêt à son audience publique de ce lundi après examen de 8 requêtes introduites en contestation des résultats législatifs provisoires dans ces deux circonscriptions. Son arrêt n'a donné suite favorable à aucune des requêtes. La Cour constitutionnelle a déclaré certaines requêtes non fondées et d'autres irrécevables pour défaut des qualités de requérant, soit pour absence de preuves sur l'irrégularité présumée des scrutins. Ainsi, conformément aux résultats proclamés par la CENI à Yakoma, Mbuyi Kayani, Mbuyi Guido et Koibé Maximilien sont proclamés députés nationaux. Didier Mazenga, Jean Kamisendu, Trifon Kinké, Donald Shindani et Paul Delacroix Louassangou sont proclamés députés nationaux pour la circonscription électorale de Massimanimba.
Actualité internationale.
Après avoir survécu à des motions de défiance, des poursuites pénales et deux tentatives d'assassinat, Donald Trump a été officiellement investi lundi, 47e président des États-Unis. Il prend ses fonctions à un moment où les républicains prennent le contrôle absolu de Washington et s'engagent dans une refonte des institutions du pays. Donald Trump s'engage à se mettre rapidement au travail après la cérémonie d'investiture, avec des décrets déjà prêts à être signés sur les bureaux ovales. Parmi ses priorités figure le renforcement de la sécurité à la frontière, l'augmentation de l'exploitation des combustibles fossiles. De plus, Donald Trump va signer un décret ordonnant à son administration de reconnaître l'existence de seulement deux genres.
L'invité.
Notre invité est Arsène Mwaka. Il est député national élu de la ville de Beni, au Nord Kivu. En vacances parlementaires dans la région, il s'exprime sur la recrudescence des attaques de rebelles des ADF depuis quelques semaines. Selon lui, la réactivation des opérations militaires dans les fronts nord du territoire de Lubero justifie ces attaques dans plusieurs villages du territoire de Beni. Il propose l'élaboration des plans locaux de sécurité impliquant la population, l'armée, la police et les responsables locaux pour mettre fin au phénomène des EDF. Arsène Mwaka s'entretient avec André Kitenge.
Arsène Mwaka, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquez-vous l'activisme des rebelles des ADF ces dernières semaines dans le territoire de Beni?
Oui, c'est des choses déjà connues, puisque on sait que le front nord et le front sud de notre province ressemblent à un vase communicant. Le plus souvent, quand le sud est sérieusement menacé, quand l'armée y travaille intensement, on constate tout de suite qu'il y a une redynamisation de l'activisme des ADF dans le nord de la province. Et donc, c'est ce à quoi on assiste, puisqu'on a eu à passer les fêtes de fin d'année de manière exceptionnelle. La population a sérieusement fêté et dans la liberté, tout était bon. Mais tout juste après les fêtes, particulièrement dans la ville de Beni, on a constaté une réactivation des ADF qui, successivement, ont eu à attaquer Mikua, Kipeayo, Kididiwe, et finalement, bien avant, c'était l'Oselose, bien avant les fêtes, c'était Tenambo, et finalement, dans le Lubero.
Pourquoi cet activisme crée plus d'émoi dans la population avec plusieurs morts, mais semble ne pas trouver plus d'engagement auprès du gouvernement, comme c'est le cas avec le M23?
Oui, il y a eu un moment où le gouvernement a eu à intensifier les opérations, et les fruits de ces opérations ont été très probants. Je suis dans la joie même de former l'opinion que l'armée réclame certains régiments qui étaient des régiments chéris de la population. Je parle des FRDC, ça signifie que quelque chose est en train de bouger, puisque dans les réclamations que la population me présente, eh bien, il ne manque pas de dire « nous réclamons tel colonel, nous réclamons tel régiment ». Ça a été des militaires exceptionnels, et modèles, et donc nous pensons qu'il y a eu ce qu'il y a eu, c'est l'armée. Mais bon, nous réclamons finalement et nous demandons au gouvernement de remettre les dispositifs qu'il y avait, puisque on ne peut plus permettre que les ADF égorgent impunément la population alors que la solution était là pendant plus d'une année.
Professeur Arsène Mwaka, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce regain d'activisme des ADF dans le territoire de Beni? où pourtant s'observait une accalmie, surtout après le déploiement des soldats de la coalition des armées congolaises, FARDC et ougandaises, UPDF.
C'est clair que l'attention du gouvernement a été beaucoup plus orientée vers le sud de la province, où le M23 et leur patron, l'armée rwandaise, ont eu à intensifier les opérations militaires. Et dès lors que cela a été constaté que l'armée a commencé à avoir des victoires, c'est là qu'on va constater finalement que ici dans le nord de la province, pour ce qui est de l'ADEF, qu'il y a une réactivation et que les choses deviennent encore mauvaises, puisque on vient de déplorer juste après les fêtes une sizaine de morts. D'abord à Loselose, à peu près 5 personnes, quelques disparus, et finalement à Kididiwe, à Mikua, à Kipeayo, autant de personnes portées disparues. Et donc, on voudrait lancer un cri d'alarme pour demander au gouvernement de refaire les dispositifs gagnants qui y étaient avant qu'on puisse dégarnir pratiquement cette région. C'est la seule raison.
Pour vous, député élu de la ville de Beni, c'est quoi la solution à cette question pour en finir une fois pour toutes avec le phénomène des ADEF?
Pour en finir avec le phénomène des ADEF, il faut les pourchasser jusqu'au dernier retranchement. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Malheureusement, jusque-là, il n'y a pas un dispositif qui fait que et la police, et les services de sécurité, et la population qu'il faut organiser soient en mesure d'empêcher que les ADF reviennent impunément. Et donc, il est très nécessaire, et le président de la République a eu à le dire en décembre, qu'on puisse organiser un plan de sécurité local qui implique à la fois la police nationale, qui implique l'armée, mais qui implique aussi la population qui est prête à collaborer à termes d'alerte, à termes de vigilance, et pourquoi pas aller au-delà si cela peut être nécessaire. Et donc, il est très très important qu'un plan nouveau soit organisé ici, dans des régions qui sont pratiquement sans ADEF. Et dès qu'on chasse l'ADEF, il faut organiser les autorités locales. J'ai parlé des chefs d'avenue, il faut organiser les chefs de quartier, il faut organiser les bourgmestres, les obliger à avoir un plan local de défense. On peut s'alimenter dans d'autres expériences pour essayer d'enrayer définitivement ces phénomènes d'ADEF.
Arsène Mouaka, merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal sur Radio Kapi. Journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, supervisé et coordonné par Alain Hurung Mouchinge, à la présentation Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous tous de l'avoir écouté.